se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Et dans l'immédiat, Christian Pessé qui est toujours à mes côtés. Je ne sais pas si vous allez skier cette année.
Non,
Christian,
ça fait très longtemps que je n'ai pas skié.
Faites de la luge, au pire, non?
J'ai pas beaucoup de temps, quoi.
Ah ben voilà, c'est ça.
Je suis là, donc.
Et puis voilà, vous êtes là, vous êtes dans les salons, toujours par Mons et par Vaux. Voilà.
J'expliquerai comment fabriquer soi-même une luge. C'est jouable, je l'ai fait autrefois.
C'est vrai, c'est pas mal, ça.
Très bien.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment construire nous-mêmes notre maison?
Voilà, alors c'est la question qui va se poser aujourd'hui. Autoconstruction, comme on dit, maison prête à finir.
Mais on peut construire sa maison.
Est-ce qu'on peut? Oui, bien sûr, on va le voir tout de suite. On a en ligne, justement, un intervenant. Nous avons Eric Tortereau, qui est co-président de l'association Castor Rhône-Alpes, et qui va justement nous parler d'autoconstruction. Bonjour, monsieur Tortereau.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes donc les Castors. Alors, les Castors, moi, je connais depuis longtemps. Vous pouvez nous rappeler l'origine? Je disais tout à l'heure que cette année d'après-guerre, avec la nécessité de construire souvent avec ses propres moyens, on peut résumer cela comme ça?
Alors, oui, tout à fait. En fait, pas ses propres moyens, pas tout à fait, parce que c'est un réseau qui s'est développé à partir de 1951, donc la reconstruction d'après-guerre, et qui a connu un très grand essor parce qu'il y avait une loi qui permettait de pouvoir faire un emprunt financier sur ses bras, et notamment ce qu'on appelait la valeur travail.
D'accord.
Et qui donc a permis à des gens qui étaient très peu fortunés de pouvoir se lancer dans les travaux au sein d'une communauté qui s'appelait les Castors, les différents sites Castors qui se sont déroulés un peu partout en France et qui pratiquaient donc l'entraide et le...
D'accord.
Et comment arriver à construire leur maison tout en ayant des moyens très limités.
Alors est-ce qu'aujourd'hui vous sentez un regain d'intérêt pour ce type de pratique? Qu'est-ce que ça représente en France l'autoconstruction aujourd'hui?
Alors l'autoconstruction en France, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas ces chiffres-là, mais moi, nous en tout cas dans notre région en Rhône-Alpes, on est au niveau de l'association à peu près entre 600 et 700 chantiers en cours tous les ans.
D'accord.
Donc c'est quand même relativement important, et surtout il y a un goût, enfin de plus en plus d'intérêt sur cette pratique, parce que justement les coûts sont tellement importants de la construction que les gens, s'ils veulent construire, en fait ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de passer par l'autoconstruction.
Mais alors, faut bien reconnaître que c'est inégal en France, hein, votre couverture, hein, parce que je veux vous dire que pour vous avoir, j'ai un peu galéré toute cette semaine, à rechercher des intervenants, c'est-à-dire que je sais que Rhône-Alpes est très actif, l'Ouest est très actif, mais vous n'êtes pas partout.
Alors on n'est pas exactement partout, enfin, on couvre à peu près toute la France, sauf au Castor Rhône-Alpes, où on couvre également, les Castor Rhône-Alpes couvrent Midi-Pyrénées et PACA. De manière à ce qu'en fait, il y a des associations qui ont disparu pour X raisons, je ne sais pas exactement lesquelles.
Ouais.
Mais en tout cas, on couvre quand même l'Alsace, Paris et puis l'Ouest également.
D'accord. En gros, comment ça se passe? C'est très participatif. Il y a des émissions qui ont un petit peu remis cela au goût du jour, aussi bien chez nous que d'ailleurs à l'étranger. Je sais que ça marche beaucoup aux États-Unis. Donc concrètement, vous donnez du conseil et vous permettez aux gens d'entrer en contact, on peut dire ça?
Voilà, c'est ça. En fait, les associations Castor sont des créateurs de réseaux au sens noble du terme, c'est-à-dire que ça permet de pouvoir rencontrer d'autres autoconstructeurs ou autorénovateurs, parce qu'on dit autoconstruction, mais aussi il y a tous les gens qui rénovent leur maison. et qui permettent de se rencontrer, d'échanger sur leurs différentes problématiques, et notamment au Castor-Rhône-Alpes, on a mis tout un système qui permet aux gens de se rencontrer et d'échanger dans les meilleures conditions sur les chantiers, ou lors de visites de chantier, ou lors de réunions particulières, qui permettent en fait découvrir déjà dans un premier temps qu'ils ne sont pas tout seuls, que dans la tête de beaucoup, il y a beaucoup plus que dans une seule tête, et du coup, on trouve des astuces et des bons plans qui permettent d'aller au bout de son projet d'autoconstruction.
Oui, bien sûr.
Donc ça apporte plein de solutions, et puis ça réconforte aussi quand on est dans la difficulté de la construction. C'est bien de savoir qu'il y a des gens à côté qui peuvent vous donner un coup de main à tel moment.
Mais il faut faire attention aussi au fait que le temps à y consacrer est forcément important, hein, et que si on n'a pas effectivement apprécié le temps qu'on avait sur toutes ses propres compétences, ça peut tourner à la difficulté, non?
Tout à fait. En fait, une des difficultés, c'est l'appropriation de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la préparation, c'est essentiel dans le projet d'autoconstruction ou d'autorénovation d'ailleurs. Nous, ce qu'on calcule, c'est entre 1 et 2 ans de préparation, parce que c'est pas notre métier, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau.
Et puis aussi 1 et 2 ans de construction, non?
Entre 1 et 3 ans de construction, il faut être quand même réaliste. Ouais. Voilà, 1 à 3 ans de construction, en fonction du temps que vous y consacrez.
Bien sûr.
Si vous y consacrez que le week-end et les jours fériés, bah ça sera forcément plus long que si vous y consacrez 5 jours par semaine. Quoi.
Ok. Donc pour vous joindre, vous c'est castor-rhonalpes.fr, hein, c'est ça?
Oui.
Tout attaché.
Et on est actuellement sur le salon Primevert à Eurexpo à Lyon, jusqu'au 24 février soir, puisque nous sommes actuellement en salon.
Restez avec nous parce qu'on aura peut-être des questions à vous poser. Alors mon autre invité, c'est Damien Herang. Bonjour.
Bonjour.
Alors Damien Herang, vous êtes patron de l'enseigne Mikit.
C'est ça.
Donc Mikit, alors j'appellerais ça constructeur de maisons prêtes à finir, on peut dire ça?
Exactement, Mikit est l'inventeur du concept de la maison prête à finir.
D'accord. Alors comment ça se passe? Vous êtes un constructeur finalement, et ensuite vous allez fournir les moyens aux particuliers de, par exemple, faire l'installation électrique, l'installation de plomberie.
Alors effectivement, on est un concept de construction participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on apporte à notre client tout le cadre sécurisé du contrat de construction, les garanties légales, etc., qui vont avec. On s'occupe nous de toute la partie grosse œuvre. Donc grosso modo, ça veut dire l'extérieur de la maison. Quand on livre une maison à un client, l'extérieur est complètement terminé, fenêtres posées, la couverture avalée, etc. Et on prépare au client et on lui livre un kit d'aménagement intérieur. Donc on ne le laisse pas se débrouiller à choisir ses travaux.
Mais il est obligé de prendre votre kit ou il pourrait finir lui-même s'il le voulait?
Non, il est obligé de le prendre chez nous et ensuite il l'assemble lui-même. Il y a une raison pour ça, c'est que pour notre objectif, c'est que le client accède à une maison dans un état de conformité, et si on laisse un client particulier, non professionnel, choisir son isolation, son...
C'est complètement impossible.
C'est quasiment...
C'est très encadré.
Voilà, c'est très encadré, puisque notre objectif, c'est que le client soit ensuite chez lui, bien et avec une garantie de conformité.
Alors, que prenez-vous en charge? C'est vous, par exemple, qui vous occupez du permis de construire? C'est vous qui faites une étude de sol, éventuellement?
Alors, on accompagne le client dans toutes ses démarches. L'analyse de son terrain, l'aspect constructibilité, les règlements d'urbanisme, on s'occupe de son permis de construire, et puis régulièrement même, on s'occupe de leur trouver le financement, puisque c'est le nerf de la guerre aussi, de financer son projet.
D'accord. Alors, dans la réalisation des finitions, vous apportez un coaching? Il y a quoi? Je dis coaching parce que c'est une assistance, quoi.
Oui, une assistance technique, effectivement. On a un certain nombre de points d'étape, de contrôle à valider avec le client. Des points de passage qui permettent à la fois de valider ce qui a été fait par le passé et également de le mettre quelque part en musique, de le guider sur la suite des travaux pour bien ordonnancer tout ça.
Concrètement, c'est quelle est l'économie réalisée? On va vous parler, je sais, régulièrement de 30%, mais ça va vraiment jusque là?
Ça va effectivement jusque là. Ça dépend du modèle, ça dépend du type de modèle, maison plein pied, maison à étage, puisque les typologies de maisons impactent forcément le temps. L'économie, en fait, dans le concept Mikit, bon, il y a à la fois une économie liée à l'aspect industrialisé du kit intérieur, puisqu'il est préparé en atelier, et puis également une économie de main-d'œuvre. À partir du moment où le client met la main à la pâte, bah, effectivement, monsieur le disait tout à l'heure, dans la construction, la main-d'œuvre coûte quasiment autant que les matériaux.
Oui.
Et donc, à partir du moment où le client s'investit, bah, on parle de dizaines de milliers d'euros.
Alors, il faut vraiment quand même être un bon bricoleur, non? Je sais bien que vous accompagnez, mais enfin, ça s'improvise pas comme ça, même si on a un kit, parce que j'imagine que ça doit être assez impressionnant. Si on a
je panique devant un meuble IKEA.
Un grand carton avec...
j'imagine...
Ce qui est impressionnant, c'est que c'est volumineux, typiquement.
Oui, c'est ça.
L'isolation, par exemple, ça pèse rien, mais c'est très, très volumineux. Donc, effectivement, là, ça peut impressionner. Mais dans le concept, en fait, a été monté... on a des choix techniques qui sont adaptés au fait que ça soit posé en très grande majorité par des non-professionnels. Et donc, du coup, ça veut dire que dans les choix techniques qui sont faits, ne serait-ce que dans le choix des raccordements, par exemple, eh ben, on opte pour des raccordements qui sont des raccordements à visser par des non-professionnels.
Ouais, c'est par exemple des raccords mécaniques, on va dire. Alors, je sais pas,
exactement.
En plomberie, vous fonctionnez comment? C'est du PER,
c'est tout ce qui est dans les constructions modernes aujourd'hui, c'est du PER avec des systèmes qui sont brevetés, en fait, 40-10 ans, bah, qui permettent d'être vissés avec des outils tout à fait standards.
Les doublages, c'est aussi dans le cadre des kits, puisque si on met du PER, bah, il va falloir derrière doublage et derrière isolation intérieure.
Exactement, tout à fait. Tout ça est inclus en fait dans le contrat de construction. C'est aussi pour ça que nos clients bénéficient d'une garantie, puisqu'à partir du moment où on leur livre l'extérieur et qu'on leur livre les matériaux intérieurs, la maison permet d'obtenir, enfin ce concept permet d'obtenir une garantie en fait à la maison.
Ouais, mais alors justement, comment dans le cadre par exemple de la décennale, aujourd'hui la plomberie entre dans la décennale très largement. Alors si ce sont des particuliers qui posent leur plomberie, est-ce que il y a pas une difficulté là?
Les problèmes de plomberie souvent c'est de la biennale. Alors
la décennale.
Vous avez raison. Alors le vrai sujet en fait de malfaçons construction, parce que faut dire ce qu'il y a, il y a régulièrement des problématiques de malfaçons.
Pas qu'avec ceux qui pas qu'avec les amateurs.
Avec tout le monde, avec les amateurs, avec les professionnels, malheureusement. Ce qui est vrai, c'est que quand on a recours à des professionnels et à un contrat de construction, on a des garanties obligatoires. Je crois qu'il y a un sujet tout à l'heure qui vise à parler de ça avec le principe de la dommage ouvrage. Et ce qui est vrai, c'est que l'essentiel des malfaçons problématiques en matière de construction, c'est pas tellement la petite fuite d'eau qu'on peut rencontrer
dans
la salle de bain, etc. C'est plus la maison qui bouge, qui s'affaisse, une fondation qui a un problème. Et donc derrière, c'est un problème de structure.
Éric Tortereau, je crois que vous êtes encore avec nous. Comment ça se passe de votre côté au niveau de la décennale et justement au niveau de la dommage ouvrage, parce que les gens ont déjà tellement de mal parfois à justement s'assurer, j'en parlerai tout à l'heure dans mon coup de gueule, quid de la décennale pour vous, et ensuite de la possibilité éventuelle et de la DO, de la dommage ouvrage, et ensuite de la possibilité de revendre sa maison si on est dans cette période décennale et qu'on n'a pas de dommage ouvrage?
Alors, la partie décennale pour les autoconstructeurs, en tout cas l'assurance n'existe pas. En revanche, l'assureur, lui, garantit sur ses fonds propres cette garantie décennale. C'est-à-dire que s'il avait quelque chose au moment où il a revendu, à ce moment-là, c'est à lui...
Ah, pas l'assureur, vous voulez dire le particulier.
Voilà. Il n'y a pas d'assureur qui assure les travaux qu'ils ont réalisés par un autoconstructeur.
Ouais, d'accord.
Il n'y a pas d'assurance pour ça.
Mais on est bien d'accord que c'est un frein quand même, parce que un particulier qui va acheter une maison, il faut que la décennale soit assurée par le vendeur, c'est ça?
Oui, enfin... l'assurance, vous pouvez pas la prendre quand vous faites les propres travaux.
Oui.
Au même titre que la dommage ouvrage, vous pouvez pas en avoir non plus, puisque la dommage ouvrage s'appuie sur une garantie décennale, une assurance décennale.
D'accord.
Et du coup, vous pouvez pas avoir une assurance dommage ouvrage. Mais comme les soucis, ils viennent surtout par rapport à du travail qui est mal fait. Quand vous êtes en autoconstruction, que vous êtes bien encadré, que vous avez tout un réseau, etc., pour vous renseigner, vous n'avez pas ce problème de réalisation de travaux dans de bonnes conditions. Et de toute façon, même s'il y en avait, l'autoconstructeur a la capacité lui-même de les résoudre, ou de les réparer, ou de les refaire, tout simplement.
Oui, d'accord. Mais enfin, c'est une limite quand même. C'est une progression cachée. Non,
pas du tout, parce que personnellement, moi, je l'ai fait deux fois.
Oui.
J'ai acheté une maison sans dommage ouvrage, qui avait un peu plus de deux ans en termes de finition. J'ai acheté en bout de deux ans en sans dommage ouvrage. Et je l'ai revendu également, toujours dans le domaine dans la période des 10 ans. Et la seule obligation, c'est le notaire qui doit informer le nouvel acheteur qu'il n'y a pas de dommage ouvrage. Mais quand les travaux sont bien faits, en fait, le problème ne se pose pas. C'est comme disait un avocat à Paris, il disait des procès pour la construction, il y en a plein. Avec les autoconstructeurs, il n'y en a jamais.
Ouais, très bien. Bien, mais si vous nous l'assurez. Mais...
C'est logique.
Oui, oui, c'est une logique.
On n'a jamais mieux servi que par soi-même,
oui,
finalement.
Oui, mais bon, là, il y a
exactement.
Quand même...
Et on peut pas se plaindre de ses propres turpitudes, mais c'est vrai que le sujet responsabilité-risque, il est quand même encadré. Hein, quand
bien sûr. On revient dans un instant, on poursuit sur ce sujet. Que pensez-vous, justement, de cette idée d'auto-construire sa maison? Voilà, on reçoit une maison en kit, on la construit, on l'assemble.
Enfin, c'est les kits qu'on utilise pour équiper la maison.
Hein. Oui, voilà.
La maison, on la reçoit pas en kit.
Non, heureusement. Vous voulez réagir là-dessus? Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà testé? Eh bien, dites-nous 3216 ou via la RMC Direct Studio et laissez-nous votre numéro de téléphone. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Le retour de ce week-end des experts, c'est la maison sur RMC jusqu'à 8h. Christian Pesset m'accompagne. Toutes vos questions, bricolage, maison, déco sont les bienvenues. Je vous rappelle que ce matin, on évoque l'autoconstruction
oui.
et des maisons prêtes à finir.
Voilà, là nous étions tout à l'heure avec Eric Tortoreau, donc de l'association Castor Rhône-Alpes, qui nous a parlé autoconstruction. Et puis nous sommes aussi avec Damien Héran, qui est président donc de Mikit, constructeur de maisons prêtes à finir.
On a pas mal de réactions, notamment Sylvain qui nous dit « Le problème des raccords à visser, c'est qu'il y a une augmentation des risques de fuite. »
Alors bon, moi, je dirais techniquement, je connais des raccords à visser qui sont installés depuis 30 ans et qui n'ont jamais bougé, mais ces problèmes de raccordement en plomberie sont évidemment peuvent être un souci parce que comme en plus c'est derrière du doublage généralement, donc ça, lorsqu'une fuite se produit, évidemment ça peut être problématique. Damien Héran, quelles sont les solutions? Peut-être que vous n'avez pas que des raccords à visser dans vos kits.
Oh, dans tous les sujets techniques, il y a toujours différentes solutions. Il y a des raccords à visser, il y a des raccords à sertir, comme le disait votre client. Nous, on avait même pendant longtemps utilisé des raccords, ce qu'on appelait des raccords rapides.
Automatiques, oui.
Automatiques.
Mais voilà. Jamais de flamme, en tout cas. Vous ne demandez
jamais de flamme,
de faire des brasures pour
non, de devenir un vrai plombier. Comme notre concept est fondé sur le fait qu'un client non professionnel doit pouvoir l'installer lui-même, eh ben, il faut pouvoir avoir recours à la fois à des outils, mais également à des techniques qui sont complètement classiques et faciles d'utilisation.
Alors justement, quelles sont les garanties que vous pouvez offrir, c'est-à-dire sur le poste, je dirais, la construction, c'est-à-dire que on a évoqué évidemment les notions de garantie décennale, etc., qui là sont couvertes sur notamment le on va dire l'enveloppe, hein, le gros œuvre pour simplifier. Mais alors, par rapport à vos kits, vous offrez une garantie d'assistance comment ça marche?
À partir du moment où on livre les kits, les kits sont intégrés dans le contrat de construction, donc ils bénéficient de toutes les garanties légales obligatoires pour un constructeur de maison individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains matériaux, les équipements, la chaudière, etc., les menuiseries, les ouvrants, c'est de la biennale. Juridiquement, c'est comme ça que ça fonctionne dans la construction. Et puis, sur d'autres corps d'État, sur tout ce qui relève de la maçonnerie, du gros œuvre, etc., c'est de la décennale, classiquement, avec une dommage ouvrage qui est systématiquement proposée à nos clients.
On est bien proposé, parce que c'est vous proposez l'assureur, on en parlera dans quelques instants, mais en fait, c'est vous, maître d'ouvrage, je rappelle que ce sont ceux qui commandent la construction, qui sont maître d'ouvrage, c'est-à-dire vous-même, qui nous écoutez, et c'est à vous de prendre l'assurance dommage ouvrage, c'est indispensable.
Damien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on va, avant de nous intéresser justement à ces problèmes d'assurance, Christian, que vous voulez soulever, nous avons avec nous Pierre au 3216. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Pierre.
Bienvenue Pierre.
Bonjour. Merci.
On vous écoute.
Ma question, j'ai une maison d'habitation qui a une vingtaine d'années et j'ai un carrelage extérieur qui est donc devant ma maison sur lequel je suis obligé de passer pour pouvoir rentrer chez moi qui est extrêmement glissant.
Ouais.
Donc à chaque fois que des gens arrivent à la maison, nous sommes obligés de leur
dire de faire attention.
Attention, ne glissez pas, mes enfants ont déjà glissé dessus et on ne sait pas trop quoi faire à part le changer, ce qui m'embêterait fortement.
Alors,
donc, je fais appel à vous.
La première des solutions, c'est évidemment de le changer. C'est ce que vous dira un professionnel. Ouais. C'est ennuyeux. Ce qu'il faudrait savoir, elle a combien de temps votre maison là?
Une vingtaine d'années.
Bon, donc c'est simplement que celui qui vous a posé ce dallage extérieur, ce carrelage extérieur, n'a pas posé le carrelage qu'il fallait en fonction des indices de glissance nécessaires. C'est-à-dire, si ça se trouve, vous avez même peut-être un carrelage intérieur en grès cérame extrêmement lisse. J'imagine ce que ça peut être. Alors là, il y a une solution qui peut reposer sur différents produits. C'est ce qu'on appelle les réducteurs de glissance. Donc, réducteur glissance, c'est tout simple, c'est un produit, alors il y en a plusieurs, c'est un produit qu'on applique tout simplement sur le carrelage, et ça vaut aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, parce qu'il y a des salles de bain qui sont souvent extrêmement dangereuses, surtout lorsqu'on prend de l'âge. Elles ne deviennent pas dangereuses parce qu'on prend de l'âge, mais comme on prend de l'âge, on risque plus de glisser et de se casser quelque chose. Mais pour l'extérieur, donc vous avez des réducteurs de glissance, c'est quoi? C'est tout simplement un produit. Alors, il y a différentes solutions. Il y en a qui sont en base de fluorure d'ammonium, il y en a d'autres qui sont à base de résine et de microbilles de verre, hein, pour simplifier. Tout ça, vous le trouvez dans le commerce. Alors, il y a des marques comme, je sais pas, Abba Gliss, je connais. Il y a tout ce qui tourne autour de Alfie Grip, etc. Enfin, vous trouverez ça facilement. Dans la gamme Algimousse aussi. Ça s'applique tout simplement à la serpillière, si j'ose dire, au balai brosse ou au rouleau. Ça réduit considérablement la glissance. C'est généralement garanti à vie, mais en réalité, moi, je pense qu'il faut faire ça tous les 4 ou 5 ans, et ça vous permet d'éviter justement les accidents, et que vos amis fassent une galipette sans le vouloir sur votre terrasse.
Une galipette sans le vouloir. Voilà. Donc, c'est ce que vous dites, mon cher Christian. Donc, ben voilà, pourquoi pas, hein,
voilà, c'est la solution.